France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je suis Cédric Tiberghien, je suis né à Colombes, juste à côté de Paris, le 5 mai 1975, et je suis pianiste.
Quand vous avez ces premiers professeurs, Cédric Tiberghien, c'est forcément aussi, vous avez évoqué un tout petit peu le rapport du corps au piano. Je me demandais quelle avait été votre première éducation, si je puis dire, dans ce rapport, dans ce corps à corps avec l'instrument. Comment est-ce qu'on vous l'a enseigné ?
Au début, surtout avec ma première professeure de piano qui venait vraiment de l'ancienne école, il y avait vraiment des principes, je dirais, qu'aujourd'hui j'appellerais catastrophiques, mais bon, qui partaient d'un bon sentiment. Donc il fallait la position de la main, on me disait il faut que tu une orange dans la main, les têtes d'os qui ressortent, les coudes près du corps. Enfin, c'était une approche un tout petit peu mécanique, et c'était un peu des principes, je dirais, d'un autre âge, mais qui... je pense, à en donner une base relativement solide. Et c'est surtout quand j'ai rencontré donc Jacqueline Roy, quand j'avais donc 10 ans, où vraiment elle a pour la première fois parlé du mot « mais détends tes épaules ». Et ce travail sur la détente a été, après de plus en plus, surtout avec Frédéric Agassi, qui me démontrait cours après cours que c'était beaucoup plus facile de jouer en laissant le corps parfaitement disponible. Et ça, c'est vrai que ça participe au champ libre qu'on laisse à l'expression, parce que justement il n'y a pas de filtre par l'attention du corps, par je dirais presque l'agressivité. Au contraire, l'idée c'est qu'on disparaisse presque d'une certaine façon pour que ce qu'on a dans le cœur ou dans la tête, ou dans les deux en l'occurrence, puisse passer librement vers l'instrument. Et s'il y a la moindre tension, bien sûr, musculaire ou même mentale, il y a un blocage, il y a une sorte de retenue, de barrage quelque part. Et ça, je me rappelle qu'au début, c'est difficile à comprendre pour un petit garçon, parce que déjà, on manque de force. On se dit, en étant, tendu, en montrant ma force, en voulant jouer plus fort. Et je dois dire que dans mon enseignement, ça a été une très bonne chose. On m'a vite dit, essaye pas de prouver quoi que ce soit. Essaye pas de prouver que t'es musicien. Essaye pas de prouver que t'es fort. Prouver que tu sais jouer vite, ça n'a aucun intérêt. Et cette idée de ne pas prouver quelque chose, c'est quelque chose que je me suis ressassé très très longtemps, jusque dans les concours internationaux, où finalement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque, parce que justement, on veut prouver même qu'on est capable de voix musicale, ce qui est horrible. Plutôt que s'exprimer librement, oui, laisser la parole prendre la priorité.
Ça demande une grande confiance.
Oui, après, comme je crois que j'étais un petit garçon très confiant. Je ne vais pas dire naïf, peut-être qu'il y avait un peu de naïveté, mais il y a vraiment eu de la confiance dès le début. Donc par rapport à ce genre de choses, je me dis, ah bon, on m'a dit ça, bon, alors je vais le faire. Et donc, il y a eu peu de résistance par rapport à tout ça. Aussi parce que ça servait, je crois, à la chose que j'aimais le plus. Je pense que c'est quand même le nerf de la guerre, la corde centrale de tout ça, que ce soit même finalement l'absence de lien avec des personnes de mon âge, que ce soit on peut dire la pression qu'on peut ressentir, même si ça m'a pas beaucoup marqué dans les concours, la compétition et tout ça. Finalement, ça m'affectait peu parce que je sentais que tout ça, c'était pour me permettre de m'exprimer dans la musique. Donc, encore une fois, tout à l'heure, je parlais de se sentir rassuré. Je crois que c'est ça aussi, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, je revenais à la musique. Et c'est encore quelque chose qui fonctionne aujourd'hui.
Thank you. rencontrez deux professeurs femmes, Cédric Tiberghien, vous allez rencontrer le premier professeur masculin, vous allez en avoir deux, oui. Hein, Frédéric Agessi et Gérard Frémy. Peut-être parler du premier, qui était donc élève de cette fameuse femme de la chaussée d'Antin.
Voilà, exactement, de Jacqueline Roy.
Et qui est un premier prix, Long Thibault, 1979.
Voilà, exactement. Et alors ça, c'est assez étrange, parce qu'on me l'a pas fait miroiter, mais on m'en a parlé forcément comme le Graal. Quand moi je l'ai rencontré, j'avais 12 ans. À l'époque, on réfléchissait progressivement à peut-être me faire entrer au conservatoire. Mais bon, moi, encore une fois, je travaillais mon piano, j'étais content. Même l'entrée au conservatoire, ça n'a pas du tout été une obsession. Je l'ai préparé comme j'aurais préparé n'importe quel cours. Enfin, on m'a dit, bah tiens, tu vas jouer Rhapsodie hongroise de Liszt et Sonate de Prokofiev. Et donc, j'ai appris ça et on m'aurait dit, bah tu vas jouer ça pour un ami qui passe à la maison ou le concours. Je crois que je l'aurais préparé de la même façon. Mais malgré tout, donc, on m'a dès le début dit, oui, Frédéric Agessi, prix Marguerite Long, Jacques Thibault. Ça m'a fait sourire quand j'étais en âge de passer des concours et que finalement... Il y a eu cette opportunité. On m'a plutôt déconseillé de le passer, ce concours, parce qu'on m'a dit, mais t'es français, qu'est-ce que tu vas faire? Concours français en France, tu vas te faire descendre, tout ça, bon. Je me suis dit, c'est quand même bête. Il y a un concours à Paris, c'est le public que je connais, des salles magnifiques, la possibilité peut-être de jouer avec orchestre, la radio et tout. Et puis bon, la petite voix qui disait, tu sais, ton prof, il est passé par là. Bon. Donc, Frédéric Agessi, oui, qui... alors lui, vraiment, m'a, je crois, initié vraiment à la musique française. Ça, Debussy, Ravel, Fauré, dans ses mains, ça a été vraiment... c'était magnifique. C'est quelqu'un qui avait une... qui a, d'ailleurs, toujours une sonorité éblouissante, une qualité sonore extraordinaire. Alors, parfois, peut-être... moi, je me suis rendu compte que finalement, se focaliser peut-être trop sur la beauté du son, ça peut avoir ses propres limites. Mais, je veux dire, il a développé ce plaisir de l'écoute. Hein, c'est peut-être... on m'a probablement dit, bien avant, de m'écouter, mais je pense que j'ai compris la dimension de ce que l'écoute était à ses côtés. Écouter le son avant qu'il arrive, écouter comment le son commence, écouter la durée du son... Et puis, comment est-ce qu'on le quitte, le silence? Après, c'est quelque chose qui est complexe quand même. On se dit, bah, écoutez, oui, c'est juste, bah, il y a du son. Non, non, il y a tout un... Il se passe quelque chose. C'est vraiment l'aventure sonore dans toute sa complexité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a énormément développé. Et d'ailleurs, dans les partitions dans lesquelles il y a beaucoup de notes, chaque écriture, évidemment, est très reconnaissable. Il y a vraiment très souvent écouter ou même parfois aimer une note, vraiment le sentiment de dire ah, « c'est juste magnifique cette harmonie » et de juste prendre le temps d'écouter. Donc ça, voilà, c'était ça. Et bien sûr, la relaxation, là, c'était devenu presque obsessionnel. Et c'est vrai que, surtout à l'adolescence, on en revient toujours à la même idée. On essaye forcément de montrer, voilà, oui, vous voyez, je suis déjà un homme, je peux jouer très vite, très fort. Et d'aller, au contraire, à chaque fois qu'il me montrait un exemple en me disant « Regarde, il n'y a aucune tension et le son est beaucoup plus naturel. » Je dis « Oh, mais c'est pas possible, comment c'est possible ?» J'ai essayé et ça, souvent, ça marchait. Il fallait justement la confiance de dire « Bon, eh bien, on va aller dans cette direction-là parce que l'autre, ça fonctionne pas. » Et bon, j'avais toujours Michel Perrier, ma prof derrière, qui finalement était là, ça devenait presque la répétitrice. Elle a finalement repris son rôle initial où elle assistait aux cours. Elle me permettait finalement de préparer les cours de la meilleure façon. Donc j'avais une sorte de petite équipe autour de moi, une sorte de cocon. Alors était-il harmonieux? Je ne sais plus. Mais disons qu'il y avait quand même une synergie des personnes qui avaient vraiment envie de me faire avancer. Et qui ont, je pense, senti qu'il y avait une envie d'ouverture, de développement. Donc les choses sont allées finalement assez vite.
Thank you.
Alors Cédric Tiberghien, à 14 ans, vous allez rentrer au conservatoire. À ce moment-là, vous êtes toujours dans l'Oise au lycée, c'est ça? Vous n'arrêtez pas vos études générales, vous rentrez au conservatoire dans la classe de Gérard Frémy. Vous êtes passé d'une certaine école, Yvonne Lefébure, à une école qui est plus celle d'Ivenat, de Neuhaus aussi. Voilà, on change de perspective.
Voilà, et ça, pour moi, ça a été aussi un choc, parce que tout à coup, je me retrouvais avec deux professeurs. Frédéric Agassi était l'assistant de Gérard Frémy, donc j'avais, dans la même semaine, un cours avec Frédéric Agassi et un cours avec Gérard Frémy, qui avaient des personnalités diamétralement opposées, avec finalement des points communs aussi. Au début, ça m'a déstabilisé. Clairement, tout à coup, ce que je pensais être la vérité était remis en... pas forcément remis en question, mais il y avait une mise en perspective. Bon, Frédéric Agassi, évidemment, devait s'effacer un tout petit peu derrière Gérard Frémy. Alors, Gérard Frémy, pour moi, c'était la rencontre vraiment de ma vie. Enfin, d'ailleurs, quand je parle de mon maître, c'est vraiment Gérard Frémy qui avait en lui la sensibilité maladive. Vraiment quelqu'un qui n'était pas d'accès facile. C'était plutôt quelqu'un d'intimidant qui se livrait très peu. Et qui vraiment était justement d'autant plus bouleversant quand on commençait à le connaître un tout petit peu, de sentir que derrière cette façade un tout petit peu, je dirais pas froide, mais vraiment inaccessible, que c'était un volcan d'émotions et qu'il avait aussi probablement ses façons à lui de gérer tout ça. Dans son jeu, ça se ressentait extraordinairement. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait à la fois travaillé avec ce géant du piano français, Ivenat, que j'ai découvert d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai découvert qu'en fait, ma prof de piano avait toutes les sonates de Beethoven en disque. D'ailleurs, j'ai toujours ce gros coffret avec les micro-sillons, les 32 sonates par Ivenat que j'ai écoutées et que j'ai découvert et que je révère d'ailleurs toujours de façon éblouissante. Aussi, le côté diamétralement opposé à la perfection de l'approche française où, même s'il était français, il y avait beaucoup de fausses notes, on avait le côté digital, on oublie complètement, il y avait juste la puissance.
L'élan.
Oui, voilà, la puissance de pensée, la puissance de jeu, je parle pas d'intensité sonore, mais on se sentait emporté devant, alors surtout dans les sonates de Beethoven, justement, ça correspondait tellement à la puissance du surhomme Beethoven que ça m'a marqué. Et puis aussi, l'apport de l'âme russe, l'âme slave de Neuhaus. Alors ça, c'est un nom que j'avais jamais entendu. Alors Richter, ça sonnait, ça, j'avais des idées. Gilels, on avait quelques disques. Mais Neuhaus, j'avais jamais entendu parler. Et puis, voilà, Gérard Frémy m'a dit, bah tiens, tu liras ce livre, ça s'appelle L'art du piano, de Neuhaus, qui est un peu ma bible, à laquelle je reviens régulièrement, qui justement donne une approche finalement beaucoup plus globale de l'instrument. On n'est plus dans les doigts, on n'est plus dans le corps, on n'est presque plus dans l'esprit, c'est une sorte de tout. Et je dirais que cet équilibre entre une première approche qui était relativement classique et puis une espèce de tourbillon presque incontrôlable a vraiment déclenché quelque chose.
France Musique, les grands entretiens de Cédric Tiberghien.
D'une certaine façon, Gérard Frémy m'a donné les clés et les pistes, et tout en étant finalement assez peu directif. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup marqué. À la fin de la première année au conservatoire, on avait tous le même morceau à jouer, c'était un Allegro de Schumann, opus 8, une œuvre qu'on ne joue pas très souvent, magnifique. Et je me rappelle donc de Gérard Frémy donnant un cours sur cette œuvre que je jouais et que mon camarade jouait aussi. Souvent c'était des œuvres différentes, mais là c'était le même. Et dire des choses qui n'étaient pas cohérentes. Il m'avait dit, je sais plus exactement, mais il m'avait dit, là, tu sais, il faut que tu ailles vraiment tout droit, pas de ralenti, et puis ici, n'aie pas peur d'ouvrir et tout. Et à mon camarade après, il m'a dit, ah oui, non, mais ici, tu sais, tu peux ralentir, être tendre, et puis être un petit peu plus sensible. Et alors ça, à 14 ans, j'ai pas compris. Vraiment, c'est quelque chose, mais j'ai même pensé, mais c'est de l'arnaque. On se moque de moi. Je veux dire, s'il dit A à quelqu'un et B à l'autre, c'est qu'en fait, il sait pas quoi dire. Et bon, ça, c'était un peu compliqué à gérer. Tout à coup, je me suis dit, mais à quoi bon? Est-ce que finalement, c'est un bon prof? Bon, j'avais pas ma voix là-dedans, mais je me suis quand même posé la question. Évidemment, avec le recul, je me dis que c'était une chance extraordinaire, puisque finalement, ce sont les secrets d'un grand pédagogue, c'est de pas imposer lui-même sa propre vision des choses, mais de savoir diriger un élève au plus loin dans sa propre direction, en guidant, en rectifiant la trajectoire. Et pour ça, c'était vraiment quelqu'un d'absolument absolument unique.
Vous vous souvenez, Cédric Tiberghien, d'œuvres qui auraient pu être voilà, la cristallisation de cette nouvelle façon de jouer, de cet océan qui s'ouvre, des œuvres où vous vous souvenez d'avoir découvert des choses de vous-même aussi
Oui, il y a des œuvres fondatrices que j'ai pas forcément apprises vraiment tout de suite, mais quatrième partita de Bach, l'ouverture en particulier. Travailler ça, ça a été une révélation. Il y en aura d'autres, des grandes révélations, mais ça, c'était vraiment une révélation ou des variations de Beethoven. Où vraiment, j'avais le sentiment que, bien sûr, on apprenait une œuvre, il y avait l'aspect musical, l'aspect pianistique, mais que ça allait vraiment au-delà. Et qu'à chaque fois, une œuvre était mise dans un contexte pas du tout historique, mais par exemple, pour cette ouverture de partita de Bach, il m'avait dit, tu penses à la danse de Matisse. Alors j'ai dit, Matisse, je connais la danse, un tableau que je connais pas, et pense à la danse de Matisse. Et je suis allé voir le tableau, et tout à coup, oh, révélation. Et je jouais complètement différemment. Et d'ailleurs, ce tableau, qui est à Saint-Pétersbourg, vraiment, c'est presque un pèlerinage. Je suis passé là, le mois dernier à Saint-Pétersbourg et je suis allé vraiment me recueillir devant ce tableau parce qu'il y a vraiment il m'a révélé des choses. C'est le rythme, c'est l'énergie, c'est la joie, c'est l'élan. On en revient toujours à la même chose. Et oui, pour les variations de Beethoven, il m'avait dit, tu sais, c'est un petit peu le laboratoire expérimental de Beethoven. Et dans les sonates, on sent que c'est la grande forme et tout, et les variations, c'est des endroits où il essayait des choses, quelquefois ça marchait pas très bien, et c'était peut-être d'une certaine façon presque plus intime que les sonates, où on a un produit bien fini, bien huilé, magnifique, superbe, où là, on peut voir aussi les erreurs, les essais, et cette façon d'approcher une œuvre, de pas simplement dire, bah tiens, je vais jouer du Beethoven, mais de l'humaniser finalement un tout petit peu, ça m'a beaucoup marqué.
Première expérience peut-être de musique en direct, vous, dans une salle de concert. Est-ce que c'était une pratique familiale? Est-ce que vos parents qui sont mélomanes allaient au concert? Ou, voilà. Et quand est-ce que vous, vous avez commencé à voir cette musique se faire sous vos propres yeux, autrement que sous les doigts de vos professeurs?
Alors c'est curieux parce que ça ne m'a pas marqué plus que ça à l'époque. Mes parents nous emmenaient de temps en temps au concert du dimanche matin de Jeanine Rose. D'ailleurs, ça je le dis souvent à Jeanine Rose, je dis franchement, je connais quasiment depuis le début. Je crois que la série de Jeanine Rose était créée en 75. Et moi, j'ai dû y aller dans les années 82, 83. Et je me rappelle du trio Collard du Mélodéon. Ça m'a marqué. Zoltán Kocsis, on était allé voir. Je dirais que peut-être les deux concerts qui m'ont vraiment marqué, c'était un tout petit peu plus tard, c'était Jorge Bolet, qui jouait les préludes de Debussy et les préludes de Chopin. Ça, je me rappelle être sorti de là ébloui, complètement ébloui. Et je me dis, j'ai eu la chance d'entendre Bolet, qui est quand même un très très grand nom. Ça, je pense que j'ai pris conscience de ce que c'était qu'un récital de piano, ce jour-là. D'avoir vu la salle, c'était, je sais plus si c'était à Gavot ou à Pleyel, mais de voir le public en transe, enfin, c'était, en plus dans ce répertoire, puis jouer Debussy avec une sonorité tellement différente, ça m'a beaucoup marqué. Et puis un autre concert qui m'a beaucoup marqué, c'est alors à Noyon dans l'Oise, il y avait pas grand chose à l'époque, il y avait une salle des fêtes qui était vraiment minable, qui a été remplacé depuis par un joli théâtre, mais à l'époque c'était vraiment pas possible. Mais il y avait de temps en temps des concerts. Et il y a, alors que je devais avoir 11 ou 12 ans, il y a le Quatuor Takács qui est venu jouer. Alors ça m'avait dit, c'est un grand quatuor, il faut aller écouter. J'ai dit bon, d'accord, on va aller écouter un concert, pas de problème. Et il jouait le premier quatuor de Ligeti, donc Métamorphose Nocturne. Et puis, La jeune fille à la mare de Fougère. Et il y avait 9 personnes dans la salle. Parce que bah, probablement, les gens n'avaient pas l'habitude. Puis le concert de Quatuor à cordes, c'est un peu étrange. Puis Ligeti, personne... Ils ont joué quand même. Et alors ça, c'est une expérience qui m'a alors vraiment profondément marqué. Et curieusement, beaucoup plus Ligeti. La rencontre avec la musique contemporaine, à l'époque, c'était vraiment... encore la musique contemporaine, c'était l'éblouissement absolu. Je veux dire, mais comment est-ce possible? Je me rappelle un peu de l'énergie et du bouleversement aussi de La jeune fille et la mort, de me sentir remué. Mais la fascination, l'émerveillement au concert, c'était vraiment ce quatuor Takács avec le quatuor de Ligeti.
Note de ce quatuor de Ligeti, Métamorphose Nocturne, par les Artemis pour refermer le 3e épisode des Grands Entretiens avec Cédric Tiberghien. Réalisation Christine Amado, prise de son Yves Lehors, mixage Éric Boisset, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait, demain à la même heure, podcast et réécoute des Grands Entretiens sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.